Avec Daniel, ce matin, on reparle du réchauffement climatique. Bonjour Daniel Cabanis.
Bonjour Isabelle.
Alors, point chaud, vous me dites.
Oui, point chaud, c'est peut-être un effet un peu facile. Un peu de pluie avait réchauffé l'atmosphère, très surchauffée ces derniers jours. Ouais. Et au même moment, un rapport français de la fin septembre pose un pronostic inquiétant.
Ah oui.
La température pourrait monter de 7 degrés en 2100, ce qui est colossal, si des mesures drastiques ne sont pas prises et sérieusement appliquées. Et un petit frisson rafraîchissant n'est même pas à l'ordre du jour, on se ferait taper sur les doigts pour une plaisanterie de très très mauvais goût. Avec la Suédoise Greta Thunberg, un demi-million de personnes au moins ont défilé au Canada pour réclamer des mesures. Et les militants les plus déterminés ont même ouvert action contre certains États, dont la France,
oui.
Accusés d'avoir un engagement trop tiède.
Si on peut dire.
On est toujours dans la chaleur. que les humains aient une part de responsabilité ne fait pas de doute. Qu'il y ait d'autres facteurs est vraisemblable, comme cela s'est déjà produit dans le passé.
Tout ça est bien vague, Daniel. Il va falloir nous préciser votre pensée, là.
Vous avez raison, mais c'est à dessein que je suis restée dans les généralités, parce que s'il y a un assez large consensus sur le constat, recul des glaciers, avancée des zones désertiques, risque de submersion de zones aujourd'hui habitées, par exemple la moitié du Bangladesh pourrait disparaître, pollution de la terre, des airs, de la mer, etc., on s'aperçoit en revanche que ce sont souvent, je dirais, des incantations plus que des propos scientifiques, avec cette conséquence, à mon sens tragique, que ça laisse un espace aux climato-sceptiques. Ça leur permet de justifier l'inaction, parce que tout cela, ouf, c'est bien approximatif. L'alerte verte...
Avec la jeune fille, pardon, et sa jeunesse qui finit presque par desservir la cause qu'elle portait pourtant si bien jusqu'à présent.
Oui, parce que le personnage a, par la force des choses, des limites. Comme donneuse d'alerte, elle a été parfaite. Je pense qu'elle, c'est personnel, qu'elle tire un peu trop sur la corde parce qu'elle n'a rien de précis à proposer. Donc, c'est bien de mobiliser les foules, mais il y a un moment où il faut entrer dans le vif du sujet. Parce que l'alerte verte, c'est parfois tout et n'importe quoi. Et le constat bien réel de la dégradation de l'environnement, en tant que tel, je pense, n'est pas suffisamment mobilisateur pour faire bouger les habitudes et abandonner les mauvaises au profit des bonnes.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est une cause perdue, le climat, aujourd'hui, Daniel Cabanis?
Non, d'autant plus qu'il y a déjà des résultats. La première démarche, c'est d'abord d'identifier les sources, ou les causes, comme on voudra, de dégradation et de pollution. Il résulte de toutes les études, d'où qu'elles viennent, que nous sommes tous responsables à titre individuel ou collectif, mais souvent pas véritablement coupable. Cela signifie que face à chaque cause, on peut imaginer un remède à présenter rationnellement. Mais j'insiste là-dessus, la démarche doit être pédagogique, aimable et je dirais même joyeuse. Parce que je pense que les gens en ont marre de se faire toujours taper sur les doigts et que ça décourage. Des mots d'ordre simples. Consommer mieux, ce qui veut dire souvent moins, sans gaspiller, recycler. Tout le monde peut ménager l'eau, pratiquer le tri sélectif en évitant les incivilités devenues délits, en ne colonisant pas les poubelles des voisins, en ne pratiquant pas...
Message aux voisins de Daniel.
Oui. En ne pratiquant pas les décharges sauvages. Ce qui vaut pour les particuliers vaut a fortiori pour les entreprises, les États, dont les obligations sont proportionnellement bien plus lourdes. Je crois que plus qu'un discours répressif, tu ne dois pas, il faut tenir un discours positif. Faites et vous aurez, en plus d'une meilleure conscience, pour certains c'est peut-être important, une meilleure santé, un meilleur environnement.
Mais ne pas gaspiller l'eau, tout ça c'est un peu naïf quand même, Daniel, on a besoin de plus.
Alors, naïf, sûrement pas. Insuffisant, sûrement. Parce que la sensibilité à l'environnement, la demande des mesures sont fortes, et en particulier dans les pays du nord de l'Europe, où l'on constate des résultats significatifs. Ces démarches volontaires ou est imposées légitimes, une demande forte pour que tous, entreprises et États, jouent le jeu.
Par exemple.
C'est un peu l'idée du cercle vertueux. Dans les exemples, c'est le développement rationnel des transports en commun, le recours aux modes les moins polluants. La Suède en est une bonne illustration. On prend le train ou le vélo quand on peut. Et c'est d'autant plus facile que l'espace est aménagé. On recourt aux visioconférences pour se déplacer moins. On privilégie l'approvisionnement de proximité en mangeant plus sain. On choisit les matériaux qui ne sont pas, peu, source de dégradation de l'environnement. Et puis surtout, les pollueurs doivent être les payeurs. Les riches ne doivent pas se décharger de leurs déchets chez les pauvres. Mieux, ils doivent les aider pour adopter de nouvelles normes. Ce n'est certainement pas facile, comme le combat sans relâche contre les lobbies, à l'instar de celui des cotonniers américains qui ont de l'eau et font crever ceux qui n'en ont pas. Plus on monte dans les hiérarchies, plus c'est dur. Mais qui a dit qu'impossible n'était pas français ?
Ah.
Et en fonction du principe d'égalité, je ne suis pas juriste pour rien, ce qui est possible pour l'un doit être possible pour tous. Les améliorations pourraient être significatives, mais il faut garder en tête que le facteur qui pourrait changer aussi la donne est la nature elle-même, parce qu'elle est parfois imprévisible pour le meilleur et pour le pire.
Merci Daniel Cabanis pour cette chronique de l'écologie joyeuse. On aurait pu aussi l'intituler. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Daniel.
Merci Isabelle.